Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Yann Brossat, maire adjoint de Paris, en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés. Vous êtes également porte-parole du PCF. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Yann Brossat, c'est la conséquence de la réforme de l'assurance chômage. La durée d'indemnisation des chômeurs va baisser de 25% au 1er février. Comment accueillez-vous cette annonce du gouvernement ?
Je trouve que une fois de plus, le gouvernement s'en prend aux plus modestes, aux plus fragiles d'entre nous, à ceux qui déjà subissent un sort difficile. Et systématiquement, lorsqu'il s'agit de demander des efforts, c'est aux plus modestes que le gouvernement fait appel. Et je pense que c'est donc une très mauvaise décision. Des gens qui vont se retrouver dans une situation extrêmement difficile, des gens à qui on met la tête sous l'eau. Et je pense que plutôt que de s'attaquer aux chômeurs, le gouvernement ferait bien de s'attaquer au chômage et de permettre à tout le monde d'avoir accès à un travail. C'est ça l'objectif qu'on devrait se fixer aujourd'hui.
Alors le gouvernement a mobilisé 10 milliards d'euros pour les entreprises qui font face à une explosion de leurs factures d'énergie. Vous qui êtes en charge du logement, qu'en est-il du bouclier tarifaire pour les bailleurs sociaux ?
Ce que je constate, c'est parmi les locataires des logements sociaux, beaucoup de gens qui voient une augmentation très sensible de leur charge de chauffage. Et donc, alors même qu'ils sont déjà en situation difficile vis-à-vis de leur pouvoir d'achat, ça va être encore plus dur. Je pense surtout qu'il serait temps de mettre en place un tarif régulé pour tout le monde, pour les ménages comme pour les entreprises, faire en sorte qu'on puisse se chauffer sans se ruiner. Et on voit aujourd'hui qu'on paye cash les réformes qui ont été mises en place ces dernières années et qui ont complètement libéralisé le secteur de l'énergie. Avant, c'était assez simple. On avait EDF, qui était une entreprise publique, qui disposait d'un monopole, et ce système fonctionnait bien. Et on a des gens qui se sont dit qu'on gagnerait à tout mettre en concurrence, à aligner le prix de notre électricité sur le prix à l'échelle européenne. Et tout ça a en réalité complètement ravagé le système, a fait dérailler le système. Et donc je pense qu'on aurait besoin de revenir à quelque chose de régulé, comme c'était le cas auparavant.
Mais est-ce qu'on peut revenir en arrière, Yann Brossat ? Est-ce que nous n'avons pas les mains liées par Bruxelles ?
Je pense qu'il est temps de se libérer de toutes ces logiques stupides qui ne conduisent à rien. Mais regardez, ça vaut dans l'ensemble des secteurs. Là, on parle de l'énergie, mais on pourrait parler de l'hôpital. On pourrait parler de notre système de transport en commun. On avait un métro qui fonctionnait très bien à Paris. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est quand même le résultat de politiques libérales qui transforment tous les carrosses en citrouilles. C'est ça la réalité. Qui transforme l'or en plomb. À chaque fois qu'on a quelque chose qui marche, le libéralisme s'en mêle, fait prévaloir le dogme de la concurrence et à la fin, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et à tout vouloir tout gérer comme une entreprise, y compris les services publics, on a un dysfonctionnement généralisé. Donc je pense qu'on aurait besoin de remettre en cause tout ça et que le pragmatisme, je ne parle pas d'idéologie, le pragmatisme devrait conduire à sortir de toutes ces logiques libérales qui nous pourrissent tout.
Vous évoquez les transports en commun, la SNCF augmente ses tarifs, le pass Navigo pourrait augmenter de 25 euros. Ces augmentations ne vous semblent pas justifiées ?
Pas du tout. Qu'est-ce qui justifie qu'on ait une augmentation du tarif du train, qu'on ait une augmentation du tarif du pass Navigo, alors même que le service se dégrade et que les Français constatent tous les jours que le service dans les transports en commun se dégrade ? C'est absurde. Payer plus cher pour un service qui fonctionne mal, personne n'est capable de le comprendre, et à juste titre. Et par ailleurs, alors même qu'on est en pleine crise climatique, alors même que tout le monde dit qu'il faut utiliser les transports en commun, on fait exploser les tarifs des transports en commun. Tout ça est un non-sens, tout ça va à contresens de l'histoire, et je pense qu'on aurait au contraire besoin de faire comme l'Espagne, comme l'Allemagne, qui ont fait tout l'inverse et qui ont baissé les tarifs des transports en commun, mis en place des tarifs préférentiels pour faire en sorte que les gens préfèrent le train, pour reprendre le slogan de la SNCF d'il y a quelques années.
Yann Brossat, le FMI invite la France à resserrer sa politique budgétaire dès l'an prochain. Cette institution pointe le gel des prix de l'électricité et du gaz, les chèques énergétiques, les remises sur les prix du carburant ou encore le soutien aux entreprises et aux ménages. Est-ce qu'il faut écouter le FMI qui trouve que l'État est trop dépensier ?
Le FMI nous casse les pieds en réalité et ces gens restent accrochés à des dogmes qui sont complètement datés. Combien de temps encore est-ce qu'on va nous expliquer qu'il faut réduire l'État à néant, réduire nos services publics? Enfin, on a appliqué ces politiques-là et on a vu les conséquences que ça a, notamment dans le domaine de la santé. On a vécu le Covid, la clochardisation de l'hôpital public, des opérations qu'il a fallu retarder pour faire de la place à des malades du Covid tellement manqués de lits. À un moment donné, stop. Je pense au contraire qu'on a besoin de s'affranchir de toutes ces logiques que nous imposent ces institutions à l'échelle européenne comme à l'échelle mondiale et justement remettre en place du service public, réorganiser la présence de l'État partout à travers le territoire, dans nos quartiers populaires comme dans nos villages. Et je pense que, bien sûr, les économistes du FMI ne sont pas capables de le comprendre, mais les Français qui sont des experts de leur propre vie voient tous les jours qu'on a besoin de changer de braquet.
Yann Brossat, les associations alertent sur l'augmentation de la pauvreté. Les Restos du Cœur, qui commencent leur campagne d'hiver ce mardi, alertent sur le nombre de personnes qui se sont inscrites cette année. C'est du jamais vu. Il y a beaucoup de mères seules avec de très jeunes enfants. C'est une situation qui vous inquiète particulièrement ?
Oui, bien sûr, c'est une situation qui nous inquiète beaucoup. Et ce qui me frappe dans le dialogue que j'ai avec ces associations, c'est le nombre de personnes qui travaillent et qui aujourd'hui fréquentent les Restos du Cœur et les associations caritatives. Des gens qui travaillent et dont le salaire ne permet pas de vivre correctement. C'est ça le vrai sujet. C'est comment on fait en sorte que le travail paye et que lorsque vous travaillez, vous avez la possibilité de vivre digne avec vos enfants. Et ce que je regrette, c'est que le gouvernement ne met rien en place aujourd'hui pour augmenter les salaires. Il invente tous les jours de nouveaux chèques qu'il improvise, mais tout ça ne règle pas le problème. Le problème, c'est le problème des salaires, de la rémunération du travail dans notre pays, et je pense qu'il est temps de prendre ce sujet à bras-le-corps.
Alors, les Français font très attention à leurs dépenses, mais il y a des dépenses incompressibles. Est-ce qu'il y a un risque d'explosion sociale cet hiver ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de colère, liée aux difficultés de pouvoir d'achat, beaucoup de colère aussi par anticipation liée aux réformes que le gouvernement veut engager. Je pense notamment à la réforme des retraites qui est à nouveau un mauvais coup contre le monde du travail. Et oui, je pense qu'une explosion sociale est possible. Et je pense par ailleurs que les Français ont intérêt à ce que ça bouge pour ne pas laisser au gouvernement les mains libres pour mettre en place toutes ces réformes.
Alors, les Français sont confrontés à une pénurie de logements. Olivier Klein, le nouveau ministre en charge de ce dossier, vient de la gauche. Il connaît bien le sujet. J'imagine que vous l'avez déjà rencontré. Qu'attendez-vous de sa part sur la construction de logements sociaux en France ?
J'ai effectivement rencontré Olivier Klein, qui a au moins le mérite de bien connaître le sujet du logement. Et puis, il a, par ailleurs, été maire de Clichy-sous-Bois, donc il connaît ces sujets-là, les difficultés dans ce secteur. Je pense surtout qu'on a besoin que l'État finance à nouveau le logement social, que l'État mette le paquet pour qu'on puisse bâtir du logement social sur l'ensemble des territoires, et notamment dans les villes qui en manquent le plus. Donc je pense que en réalité, on a au moins autant besoin du ministre du Logement que du ministre des Finances, parce qu'on a besoin d'argent frais, sonnant et trébuchant, pour faire en sorte qu'on puisse produire du logement social. Je rappelle quand même que le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par une chute drastique de la construction de logements sociaux. Or, le logement social, c'est ce qui permet de loger les salariés, ceux qui travaillent, ceux qui ont des petits revenus et qui sont souvent en première ou en deuxième ligne et dont on a tellement besoin dans nos métropoles.
Et cette pénurie de logements, c'est une bombe à retardement ?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, moi, j'étais très frappé par le fait qu'on a eu une campagne présidentielle, une campagne législative, où on a tout le temps parlé de pouvoir d'achat et on n'a jamais parlé de logement. Et on a juste oublié qu'aujourd'hui, si le pouvoir d'achat de nos concitoyens est plombé, notamment dans nos grandes villes, c'est en raison du coût du logement. C'est parce que les Français consacrent quasiment un quart de leurs revenus au paiement de leur logement. Et donc, si on veut améliorer le pouvoir d'achat des Français, il y a deux questions à traiter. La première, c'est la question du salaire. Et la deuxième, c'est la question du logement, du coût du logement. Et réduire le coût du logement, ça passe notamment par le fait de développer du logement public, du logement social, du logement à un loyer abordable.
Alors, Yann Brossa, le gouvernement souhaitait supprimer des places en hébergement d'urgence pour les personnes sans domicile en 2023, une mesure à laquelle il a finalement renoncé. Aujourd'hui, à Paris, combien de places d'hébergement d'urgence faudrait-il créer pour répondre à toutes les demandes des personnes sans-abri, puisque c'est une prérogative de l'État ?
Oui, l'hébergement d'urgence, c'est effectivement une prérogative de l'État. Ce qu'on constate, c'est que à Paris, il y a environ 4 à 5 000 personnes qui, tous les soirs, dorment dehors. Et parmi elles, des familles, des femmes, parfois des femmes enceintes, des enfants. Et donc, on aurait besoin d'une augmentation très sensible du nombre de places d'hébergement. Je dis à Paris, mais pas qu'à Paris, en Ile-de-France de manière générale, et notamment dans un certain nombre de départements, je pense aux 92, qui sont très peu dotés en places d'hébergement. Heureusement que le gouvernement a renoncé à son choix initial de supprimer 6 000 places d'hébergement, mais enfin, aujourd'hui, on en manque, et donc il y aurait besoin d'en créer, et d'en créer, je pense aussi, dans un certain nombre de bâtiments qui sont vides. Et je souhaite que, c'est une demande que je fais au ministre, l'État puisse réquisitionner un certain nombre de bâtiments qui sont aujourd'hui vacants. On ne peut pas avoir d'un côté des gens qui dorment dehors et de l'autre des bâtiments qui restent désespérément vides.
À qui appartiennent ces bâtiments vides ?
Ce sont des bâtiments privés, mais précisément, la loi aujourd'hui permet à l'État de les réquisitionner. Or, ce que je constate, c'est que l'État ne fait pas usage de ce droit de réquisition. C'est une compétence qui relève du préfet, donc des services de l'État. Et donc, c'est une demande que je fais au ministre. Le ministre a d'ailleurs dit qu'il n'y était pas défavorable. J'ai une liste de bâtiments à lui soumettre et je souhaite que cet hiver, des bâtiments privés puissent être réquisitionnés pour héberger des gens qui actuellement sont dehors.
Yann Brossa, une nouvelle loi sur l'immigration est prévue l'an prochain. Gérald Darmanin veut durcir l'application des obligations à quitter le territoire. La mesure vise désormais tous les étrangers en situation irrégulière et pas seulement les délinquants étrangers. Et en même temps, il veut créer un permis de séjour pour les métiers en tension. Quel regard portez-vous sur ces différentes annonces ?
J'en ai d'abord un peu assez de l'instrumentalisation de ce sujet de l'immigration. Parce que si les Français sont aujourd'hui en difficulté, s'ils galèrent, s'ils ont autant de problèmes de pouvoir d'achat, si on a encore des délocalisations massives dans le secteur de l'industrie, c'est pas à cause de l'immigration, c'est parce qu'on a aujourd'hui un système qui est un système de l'argent roi avec des actionnaires qui en demandent toujours plus. Et si on cherche un responsable aux difficultés qu'on vit, c'est plutôt du côté des actionnaires qu'il faut chercher que du côté des immigrés. Pour le reste, je trouve que Gérald Darmanin mêle en réalité beaucoup de choses. Il mêle le sujet de l'immigration et le sujet du travail, en évoquant notamment la régularisation de ce qu'il appelle les salariés des secteurs en tension. Moi, ce que je pense surtout, c'est que si on a aujourd'hui des métiers en tension, c'est parce qu'on a des métiers mal payés et que la solution à cela, c'est surtout l'augmentation des salaires pour faire en sorte que ces métiers-là soient difficiles, soit des métiers plus attractifs qu'ils ne le sont aujourd'hui.
Mais en même temps, vous êtes favorable à la régularisation des sans-papiers, notamment, je pense à tous ces livreurs qui travaillent à Paris et qui sont sans-papiers.
Bien sûr, je suis favorable à leur régularisation, pas simplement d'ailleurs dans l'intérêt de ces salariés-là, mais dans l'intérêt du monde du travail dans son ensemble, parce que maintenir des gens dans une situation de clandestinité, maintenir des salariés dans une situation de clandestinité, c'est une manière de tirer tous les salaires vers le bas, et notamment les salaires de ceux qui sont en situation régulière, mais auxquels on dit, il y a des gens qui, eux, n'ont pas de papier et qui sont prêts à travailler pour moins cher que vous. Donc oui, bien sûr, favorable à la régularisation des travailleurs sans papier.
Que doit faire la France si l'Italie continue de refuser d'accueillir des bateaux humanitaires comme l'Ocean Viking ?
Je dirais que de manière générale, l'Union européenne, c'est pas McDonald's, c'est pas venez comme vous êtes, on prend ce qu'on veut pas le reste. Et donc, en l'occurrence, il faut placer tout le monde face à ses responsabilités. Après, il y a une réalité, c'est que ces dernières années, l'Italie, du fait de sa position géographique, du fait du règlement de Dublin aussi, a pris sa part, c'est le moins qu'on puisse dire, dans l'accueil des réfugiés. Mais on a besoin, à l'échelle européenne, d'avoir une responsabilité pour chacun. Et je pense notamment aux pays de l'Est, qui aujourd'hui sont bien contents de recevoir les aides de l'Union européenne, mais qui pour autant ne veulent pas assumer leurs obligations d'accueil. C'est quand même un problème. Ça peut pas être, on prend les aides, et puis au moment où on doit accueillir des réfugiés, il n'y a plus personne. Donc on a besoin, à l'échelle européenne, d'avoir une logique de solidarité qui soit construite, qui soit pérenne.
Comment la France peut-elle échapper à une élection d'un ou d'une candidate de l'extrême droite lors de la prochaine élection présidentielle, puisqu'on voit que c'est un courant d'idées qui progresse fortement en France aujourd'hui?
Bon, c'est vrai que c'est extrêmement, extrêmement inquiétant. Je pense d'abord qu'il faut que la gauche, notamment, rappelle la réalité de ce qu'est l'extrême droite. Évidemment, le racisme, la xénophobie, mais aussi aucune solution sur le plan social. Regardez les députés du Rassemblement national. Ils se sont opposés à l'augmentation du SMIC. Ils se sont opposés à l'augmentation des salaires et notamment à la proposition faite par Fabien Roussel qui est l'indexation des salaires sur l'inflation. Ils se sont opposés au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Donc le Rassemblement national, ça n'est pas la solution à nos problèmes et notamment à nos problèmes de pouvoir d'achat. Et puis surtout, il y a besoin que la gauche retrouve une dynamique dans notre pays, une gauche du travail, une gauche qui parle des problèmes quotidiens des gens. C'est ce que Fabien Roussel a commencé à faire à l'élection présidentielle. Et en tout cas, je pense que c'est cette gauche-là qui sera le meilleur antidote au Rassemblement national et aux dangers qu'il représente.
Quel regard portez-vous aussi sur la primaire au sein des Républicains entre Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradié ?
Ce que je vois, c'est qu'ils se livrent à une course à l'échalote qui les conduit tout droit dans les bras de l'extrême droite. À une époque, il y avait dans notre pays une droite dite républicaine. Et aujourd'hui, vous avez une droite qui est complètement extrémisée, zémorisée. Enfin, quand je vois, par exemple, que les élus de droite à Paris, au dernier Conseil de Paris, ont voté contre une subvention à SOS Méditerranée, c'est-à-dire une association qui vient au secours des réfugiés, c'est la honte. Enfin, c'est la honte. On n'imagine pas Jacques Chirac, par exemple, s'opposer à une subvention comme celle-là. C'est une honte absolue. Et en réalité, ce que je vois, c'est que la droite est zémorisée. Et je trouve ça assez pathétique et assez triste pour notre pays, d'autant qu'on parle d'un courant politique qui était respectable. La droite républicaine, c'était, moi j'étais évidemment en désaccord avec ce qu'ils représentaient, avec leurs propositions. Enfin, c'était des gens respectables. Regardez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui.
Merci Yann Brossat, je rappelle que vous êtes maire adjoint de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés et porte-parole du Parti communiste français. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.